Babylone avec le temps.
Bonjour, bienvenue à vous dans Babylone, le rendez-vous des savoirs et des cultures. Mémoire africaine en péril, c'est le titre d'un colloque qui aura lieu jeudi et vendredi au Musée d'art et d'histoire de Genève. Titre en forme d'avertissement à l'heure où les trésors des patrimoines ont été encore une fois pillés en Libye, en Égypte, au Soudan, partout où la guerre s'invite. Mais à côté de ces dangers immédiats, il faut aussi penser au temps, à la déontologie quotidienne, à la lutte contre le pillage, une réflexion plus large sur la manière de penser, de conserver le patrimoine africain en Afrique. Table ronde dans un instant avec quelques acteurs de ce colloque, avec Anne Marchand en régie à Genève, Bruno Seriba à Lausanne, Nicole Corpato pour le site internet, David Collin au micro.
En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle.
Convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
Il y a un Américain qui est passé il y a 3 ans, qui voulait absolument acheter les objets. Il était prêt à mettre 250 000 dollars pour les avoir. Et le chef du village a refusé parce que ça faisait partie du patrimoine du village.
Les occupants, silencieux dans leurs caisses et leurs emballages.
Car les trésors que ce musée recèle ont suscité les convoitises.
Se sont succédé des missions d'ethnologie depuis la fin du 19e et surtout dans les années 30. Mission d'ethnologie mythique parce qu'elle a fait rentrer des objets absolument inouïs, des masques notamment, dont Marcel Griot l'avait dressé la typologie.
Le musée des arts d'Afrique, 2000 œuvres sont exposées ici, du Maghreb, d'Afrique noire et d'Océanie.
Grande fête pour l'inauguration de la porte du futur musée de Kerma, en présence de plusieurs ministres du gouvernement soudanais et de toute la population de la ville.
Une carte sonore signée Bruno Seriba est l'heure d'accueillir mes invités, tous participants au colloque Mémoire africaine en péril à Genève, organisé par la Société suisse d'études africaines en partenariat avec l'UNI de Genève et le CNRS. En particulier donc dirigé par Anne Mayer, archéologue, et Eric Wiscombe, archéologue, Vincent Négri, juriste. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Mais la table n'est pas tout à fait complète. Parmi les invités au colloque, nous en rejoint également Fallo Baba Keïta. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous venez du Bénin, de Porto Novo, et vous dirigez l'école du patrimoine africain.
Oui.
Et Cléna Sanogo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut des sciences humaines de Bamako, au Mali. Et vous êtes aussi archéologue. Voilà, je viens de l'apprendre. Alors, premier point, nous avions déjà abordé dans Babylone la question du pillage des biens culturels, mais l'enjeu, Vincent Négri, aujourd'hui, en plus de ce pillage, ou de la réflexion qu'il peut y avoir depuis l'Afrique sur ce pillage, c'est aussi la durée, les pratiques de conservation, de formation, de déontologie. Est-ce que on est passé à une autre phase de réflexion sur ce patrimoine aujourd'hui, après quoi, une dizaine d'années où on évoque de manière plus intensive peut-être ces questions-là, dans le grand public?
Oui, moi je pense qu'on est passé à une phase nouvelle puisque on n'est plus obligatoirement sur un débat bipolaire entre les États du Sud et puis des puissances occidentales qui seraient les consommateurs de ce patrimoine africain. Je pense que depuis quelques années, le débat s'est un peu ouvert puisque les pays occidentaux ont adopté de nouvelles règles. Donc ne serait-ce que la Suisse a adopté une loi sur le transfert international des biens culturels en 2003. Donc on sent qu'il y a une nette évolution et que maintenant il s'agit de construire l'avenir dans un partenariat avec les États africains.
Vous aviez envie de planter un nouveau décor avec ce colloque ou d'entrer vraiment dans une autre étape, Anne Mayer?
Oui, alors l'idée de cette conférence était déjà de faire un peu un état des lieux de la question, tant sur le terrain que sur ses aspects juridiques, comme Vincent vient de l'évoquer. Et puis essayer de voir justement les nouvelles initiatives qui émergeaient en Afrique pour essayer de gérer peut-être ces questions en première ligne, avec notamment des concepts nouveaux de banques culturelles dont on aura peut-être l'occasion de parler.
Des projets qui sont installés, prévus, notamment là à Bamako, hein, au Mali.
Au Mali, en tout cas, oui. Il y a de nombreuses initiatives de ce genre-là dont on pourra parler plus en détail.
Voilà. Eric Wiscombe, juste avant l'émission, j'ai dit oui, on ne va pas parler que du pillage, de restitution, mais finalement c'est encore une question d'actualité, sauf qu'elle s'est peut-être aussi déplacée. La réflexion vient depuis l'Afrique aujourd'hui, plus.
Absolument. Maintenant, il est question aussi de restituer des objets. Et surtout, je voulais dire, il y a une évolution très nette dans la mentalité des chercheurs, des archéologues travaillant en Afrique. Il y a 30 ans, il n'était pas question pour les chercheurs de s'occuper de protection du patrimoine ou de restitution des biens culturels. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'éthiquement, déontologiquement, il n'est plus possible de faire de la recherche archéologique en Afrique sans se préoccuper aussi de cet aspect-là. C'est aussi un des buts du colloque, c'est de sensibiliser les gens à cela.
Fallo Baba Keïta, c'est une depuis le Bénin en l'occurrence, c'est une question qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années.
Oui, je dirais depuis le Bénin, mais depuis l'Afrique, puisque l'École du patrimoine africain est une institution internationale qui travaille sur 26 pays d'Afrique francophone, lusophone et hispanophone au sud du Sahara. Donc la question est effectivement d'actualité, puisque le pillage continue, il ne faut pas l'oublier. Mais cependant, il est important que nous puissions prendre les mesures et qui ne sont pas seulement des mesures entre États, mais aussi en Afrique même. Et au niveau des pays, pour que l'environnement du patrimoine, la gestion du patrimoine et les acteurs qui contribuent à sa promotion soient mieux étoffés et plus élaborés.
Donc dans cette école, simplement, elle forme des futurs conservateurs, des gens qui vont travailler sur les biens culturels?
Oui, l'école forme fait essentiellement de la formation professionnelle, puisque des gens qui sont déjà en poste et qui donc pour renforcement de capacité. Mais nous faisons beaucoup de plaidoyer dans le cadre donc de la valorisation du patrimoine, de sa gestion et de sa préservation. Nous travaillons aussi avec les États pour disons les aider à mieux asseoir des politiques culturelles qui permettent donc de mieux gérer le patrimoine, mais aussi surtout de faire en sorte que les personnes soient mieux formées et mieux informés pour la gestion du patrimoine.
On reviendra tout à l'heure sur cette question de la formation qui est évidemment très importante. Clina Sanogo, j'ai l'impression, même s'il y a beaucoup d'archéologues autour de cette table, qu'il y a de plus en plus de domaines, de matières, de disciplines qui sont concernées par cette question de la mémoire africaine en péril, du patrimoine simplement. Vous qui dirigez un institut de sciences humaines, vous êtes bien placé peut-être pour le savoir.
Oui, tout à fait. Vous avez parlé d'évolution. Je crois que l'évolution la plus efficace viendrait plutôt de la formation, de la sensibilisation des populations elles-mêmes. Mmh. Tout à l'heure, quand j'ai écouté votre introduction, où le chef de village a refusé de vendre.
Cet acheteur américain. Ouais.
Ça faisait plaisir. Et au Mali, je crois que les actions qui sont entreprises tendent à renforcer. Anne a parlé tout à l'heure des banques culturelles. Nous avons l'expérience des missions culturelles qui n'ont pas encore tout à fait peut-être produit des résultats satisfaisants, mais c'est sur cet aspect de formation, de sensibilisation des populations elles-mêmes que nous appuyons vraiment nos stratégies de lutte contre le pillage, parce que quand on voit tout ce qui a été fait en matière de convention, en matière de ceci, cela, et on est toujours pillé, il faut effectivement évoluer.
C'est pas facile de sensibiliser les gens quand en face on arrive avec des gros paquets de dollars.
Bien sûr, il y a les conditions de vie des populations. Quand on n'arrive pas à se nourrir, bon, c'est tout à fait normal qu'on accepte ce qu'on
a. Il y a des priorités.
Mais nous pensons vraiment que c'est la voie à suivre. Voilà.
Sensibilisation sur le long terme. On parle de mémoire africaine. Qu'est-ce qu'on entend par mémoire? On remonte jusqu'à où avec cette mémoire? Vous êtes des archéologues, donc j'imagine vous remontez très loin, mais en même temps, qu'est-ce qui a été préservé et que signifie cette mémoire? C'est matériel, immatériel, mayor?
Oui, bon, on peut envisager plusieurs choses avec le terme de mémoire. Là, on l'a envisagé dans un terme très large. C'est tout ce qui fait l'histoire de l'Afrique. C'est vrai que ça peut être des traditions orales, donc un savoir immatériel, des savoir-faire, mais ça peut être bien sûr aussi des biens culturels qui sont symboliquement riches d'enseignements et très importants pour la cohésion du groupe et les constitutions d'identité ou la préservation d'identité. Et ça, c'est très important. Je dirais qu'il n'y a pas de chronologie à établir dans ce cadre-là. Il s'agit d'un terme très très large qui englobe tant de l'archéologie que de l'ethnographie.
Aujourd'hui, la mémoire immatérielle a aussi pris un peu plus de place, ou je sais pas, où on l'évoque plus facilement dans ce patrimoine global, puisque quand on parle de pillage, on parle plus facilement des objets. Est-ce qu'on parle aussi des idées, des contes, des choses qui sont transmises de manière orale, ou bien c'est quelque chose qu'on a dépassé et on se dit qu'on n'en est plus à ce stade-là, je sais pas. C'est une vraie question que je pose.
Je vais y répondre. Oui, quand on parle de mémoire, c'est vrai, on pense beaucoup actuellement aux objets, de tout ce qui est matériel. Mais disons que c'est vrai, ces objets, une fois disparus, c'est déjà un pas important qui n'est pas là, qui fait que qui aussi agit sur les traditions, qui agit sur les manières d'être, parce que ces objets étant témoins sont porteurs de pratiques. Mm-hmm. Et généralement, que les objets ne sont pas gratuits, c'est pas fait juste.
C'est pour, pas juste des objets artistiques.
Pour les artistiques, donc ce sont souvent des traditions qui disparaissent comme ça. Donc c'est important, mais en dehors de cela, la tradition orale, même quand on le dit, ou disons tout ce qui est lié à cela, les pratiques sont très très vivantes en Afrique. Avec ces objets ou pas, puisque c'est lié au contexte même. Mais ceci dit, je pense qu'il faudrait le regarder à la fois matériel et immatériel, parce que c'est très caractéristique de la culture africaine que le côté matériel n'est qu'un support et l'aspect immatériel est l'âme même des populations, et cela est très important.
Cette voix qu'on entendait d'ailleurs dans la carte sonore de ce chef de village au Tchad, au sud du Tchad, qui disait que les bibliothèques, ce sont les anciens.
Oui, les bibliothèques, c'est pas du sud du Tchad, c'est la fameuse citation de Amadou Hampatella, qui dit « un verre qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Effectivement, quand on parle de mémoire, on est tout de suite braqué sur les objets. Les sociétés africaines, c'est les sociétés d'oralité, les traditions orales. Mais cette mémoire en péril également concerne ces canaux de transmission des traditions orales qui n'existent pratiquement plus. Et on est porté sur les objets, c'est vrai, mais l'immatériel est autant menacé que les objets. Parce qu'il n'y a plus, et un vieillard que vous rencontrez aujourd'hui n'est pas forcément une bibliothèque. Voilà, il y a tous ces problèmes, et je pense que le colloque prendra tous ces aspects en compte.
Je vais donner un exemple. Par exemple, il y a un film de Michel Brandt qui a été fait avec la mission culturelle de Banyangara. Et l'objet qui a été retourné, ensuite, cet objet est gardé, ou des objets sont gardés dans les sanctuaires. Et donc, le fait que les objets soient là, il y a des gardiens également des sanctuaires qui font que, bon, on perpétue une tradition. Maintenant que ces objets ne sont plus là, donc c'est aussi cette pratique qui lie les gens aux objets, qui disparaît avec. Donc c'est ce que M. Sanogo vient d'expliquer. Donc il y a des canaux de transmission qui sont là, qui font partie donc de l'organisation sociale, qui disparaissent aussi avec la disparition des objets. Même si on dit que l'aspect matériel, c'est pas que c'est un second plan, les deux sont parallèles, je veux le dire. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent sur les deux à la fois, mais l'aspect immatériel en Afrique prend une dimension importante quand on parle du pillage.
Donc pillage, justement, je reviens de votre côté, Eric Huiscom et Vincent Negri. Question délicate, parce qu'il faut aussi savoir ce qui est de l'ordre du pillage et ce qui n'est pas de l'ordre du pillage. Ni ceux qui pillent, ni ceux qui sont pillés en ont toujours conscience. Point d'interrogation.
Pas toujours, mais c'est pour cela aussi qu'on essaye de développer un code éthique auprès des archéologues. C'est justement pour que les archéologues qui font de la recherche, disons programmée, autorisée, selon les lois, en respectant les lois à la fois des pays concernés, mais aussi des pays, les lois internationales, que ces archéologues soient aussi conscients qu'ils détruisent. Donc c'est toute fouille archéologique est une destruction, donc on doit restituer non seulement des objets, mais aussi le savoir lié à ces objets. Donc un archéologue doit aussi diffuser ses résultats scientifiques localement, à la fois auprès des populations locales, sous une forme de vulgarisation, mais aussi auprès des étudiants, des universités locales, etc. Donc là, si vous voulez, si vous respectez cela, il n'y a pas de pillage.
Cette phrase, quelque part, dans un de vos articles, « tombe fouillée, tombe pillée ».
Bien sûr, il est clair qu'une tombe fouillée est une tombe indirectement pillée, surtout si le contenu de la tombe s'en est allé ailleurs et que la description de la tombe n'est accessible que dans une publication littéraire à 50 exemplaires dans une bibliothèque scientifique du Nord. Donc c'est pour ça que la lutte contre le pillage, c'est aussi instaurer dans des codes de déontologie et d'éthique que l'archéologue qui travaille en Afrique restitue aux populations locales ce qu'il a découvert et bien sûr les objets. Mais pas seulement les objets, aussi le savoir lié à ces objets.
Vincent Negri, l'évolution de cette déontologie se fait aussi sur place en Afrique. Déontologie dit droit aussi, lois, etc., qui ont à évoluer, notamment celle des musées, mais pas seulement, qu'il faut revoir, qu'il faut revisiter, qu'il faut enrichir, qu'il faut rénover.
Oui, tout à la fois, je pense, enrichir et surtout rénover. Alors, enrichir et rénover, puisque il y a des lois sur le patrimoine en Afrique, c'est-à-dire que tous les États africains sont dotés d'une législation protégeant leur patrimoine culturel. Mais on observe, quand on analyse le contenu de ces lois, qu'elles sont très fortement inspirées de concepts occidentaux. Donc
coloniaux, en l'occurrence.
Et coloniaux, donc, c'est-à-dire que la colonisation a laissé des traces profondes, y compris dans le système normatif. Donc il s'agit, pour les États africains, d'élaborer de nouvelles normes qui soient en contact direct avec les réalités économiques, sociales et institutionnelle, puisqu'on sait qu'une norme juridique, quelle qu'elle soit, une loi, ne produit des effets que si elle est acceptable, que si elle est peut-être supportable par des populations locales. Se pose aussi la question sur le continent africain de l'accès aux droits. Je dirais que nous sommes dans des pays où nous avons l'habitude, où nous savons que le droit est accessible, il est écrit, il est publié. Nous savons tous lire, donc ça ne pose guère de difficultés. Sur le continent africain, quand nous parlions tout à l'heure de sensibilisation, la sensibilisation, c'est aussi indiquer aux populations locales le contenu de ces règles. Pourquoi ces règles ont été adoptées? Puisque des populations qui n'ont pas forcément accès à la lecture, qui n'ont pas forcément accès à l'écrit, il faut bien à un moment donné, je dirais que déployer de nouveaux modes de communication pour indiquer quels sont les principes auxquels l'État se réfère pour protéger le patrimoine. Donc là, il y a aussi des enjeux en matière de sensibilisation.
Sensibilisation des populations locales et des futurs rebelles aussi, en quelque sorte. Leur dire attention, vous pouvez, même si vous faites une révolution, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec le patrimoine.
Bon, pas seulement les futurs rebelles.
Léna Sanogo.
Oui, il y a les populations, mais il y a les autorités aussi chargées d'appliquer les lois dont vous avez parlé, qui ne sont pratiquement pas au courant. Les services de douane en Afrique, les services de police, de gendarmerie. Au Mali, on fait beaucoup de choses. On organise des séminaires pour les sensibiliser. Peut-être que c'est eux d'abord qu'il faudrait sensibiliser.
Les politiques.
En plus, des opérations comme les banques culturelles qui vraiment concernent les populations elles-mêmes, tout en leur donnant des moyens de subsistance. Et les banques culturelles, c'est ça. L'idée de départ est remplacer les objets. Parce que c'est vrai que le rapport du simple paysan, du simple aux objets, n'est pas le même que ce que nous concevons en termes de protection du patrimoine. Parce que c'est pas évident que ces gens se rendent compte qu'ils sont en train de piller. C'est nous, quand quelque chose est vieux, on le détruit, on le remplace. C'est ça, il y a tout ça qu'il faut voir. Et effectivement, les autorités chargées d'appliquer les textes, il l'a dit, c'est en français. Combien de gens le lisent?
C'est aussi pour dépolitiser parfois, ou avoir un autre rapport de la politique avec les biens culturels. Ça n'appartient pas forcément aux politiques, mais par contre, ils doivent le gérer pour l'offrir à tout le monde, ou pour un intérêt général, on pourrait dire. Le juriste a mieux le dire que moi, mais...
Non, mais c'est bien, c'est bien la grande difficulté, c'est comment faire en sorte que des communautés, si on prend un terme un peu plus générique, se réapproprient leur patrimoine. C'est-à-dire que, parlons de mémoire tout à l'heure, donc la mémoire n'est pas quelque chose de passé, n'est pas quelque chose de mort. La mémoire est vivante, elle se construit jour après jour. Et un des pillages dont on ne parlera pas sûrement en ce colloque, mais qui est aussi actif sur le continent africain, c'est le pillage des traditions orales. Je dirais que des musiciens occidentaux...
Dans les matériels, justement, là, oui.
Dans les matériels, des musiciens occidentaux vont sur le continent africain s'inspirer des thèmes musicaux qui sont présents dans les chants traditionnels sur le continent africain. Et on a du contentieux important sur ces questions-là. N'oublions pas que le générique du Roi Lion, le dessin animé de Walt Disney, a fait l'objet d'un procès parce que, justement, le thème musical était issu d'un chant traditionnel d'Afrique du Sud. Donc on voit qu'il y a des questions très prégnantes en la matière.
Ça, c'est une réflexion plus récente, en l'occurrence, sur ces questions-là, j'y reviens, mais...
Mais c'est une grande difficulté, c'est que comment conférer des droits, on va dire, de propriété intellectuelle à une communauté? On sait le faire sur un individu, puisque qui dit propriété intellectuelle dit attribution de la paternité à de l'œuvre. Or, la paternité, elle est collective, et donc on n'a pas forcément la mémoire de celui qui le premier, ou du groupe qui le premier a inventé ce thème, a créé ce thème musical. Et puis, il faudrait pouvoir remonter dans le temps, je dirais, établir la généalogie. Donc là, on a un vrai déficit du point de vue des normes actuelles pour arriver à attribuer des droits de propriété intellectuelle de nature collective à une communauté.
Mais déjà pour cela, il faut aussi distinguer ce qui est de l'ordre du national, entre guillemets, et des différentes communautés qui sont beaucoup plus nombreuses que la simple identité nationale dans beaucoup, la plupart des pays d'Afrique. Fallo Baba Keïta.
Oui, j'appuierai ce que Vincent dit, effectivement. Quand il disait qu'il fallait que les pays, les gouvernements, ou disons les politiques, travaillent à adapter les lois aux réalités, puisque c'est vrai que les lois sont là et la plupart des lois aujourd'hui sont héritées de la période coloniale. On les a fait des toilettages, mais en réalité, souvent, ça ne répond pas à une réalité. Et donc, ces réalités se traduisent aussi par, effectivement, ces problèmes qui se posent aujourd'hui par rapport à ce pillage dont il a parlé, notamment de la propriété intellectuelle, qui n'est pas vue de la même manière, puisque effectivement des objets ou certaines choses, l'appropriation n'est pas faite de la même manière. Et si on donne toujours le nom d'un individu à quelque chose, et de l'autre côté, en Afrique, c'est souvent effectivement des groupes où c'est une personne anonyme. Même si elle n'est pas anonyme en réalité, mais c'est ce qu'on dit. Mais c'est connu, mais cela, c'est à nos États, aux États africains, de rendre ça réel pour que cela puisse être traduit dans le droit, comme on le dit, positif, en fait. Donc c'est plus cela, puisque c'est ce droit qui prévaut aujourd'hui. Et sinon, aujourd'hui, quand on voit les traditions orales, mais aussi même les lois coutumières qui sont là, qui font qu'aujourd'hui, beaucoup d'objets ont traversé des siècles pour arriver là. Et sans ces lois-là, les objets ont disparu. Et ces lois sont là qu'il faut valoriser et qu'il faut voir quelles relations les gens ont avec ces objets et ont avec, quelles relations les gens...
C'est les lois, je dirais, plus locales. Il y a les lois nationales, puis il y a les lois...
Elles sont locales, mais elles doivent transparaître dans les lois nationales.
C'est difficile dans des pays où il y a beaucoup de...
Ce n'est pas difficile, mais il faut faire une réflexion là-dessus. Et je pense qu'il faut y travailler et les juristes en savent quelque chose. Alors maintenant, je reviens à la partie sensibilisation dont vous avez parlé, qui est aussi importante parce qu'effectivement, la sensibilisation concerne les communautés, concerne aussi, bien sûr, notamment, moi je mets l'accent sur la jeunesse, par exemple, puisque le fait que les communautés, comme M. Lassanogo l'a dit, ne peut-être se rendent pas compte que le pillage, on n'a pas les mêmes perceptions du pillage. Donc la notion de sensibilisation doit aller beaucoup plus fort profondément qu'on le fait aujourd'hui, en essayant donc de prendre quel contenu donnent les gens à la notion de patrimoine, mais aussi les enjeux aujourd'hui qui se placent sur le plan international. Donc je pense que cela doit être fait, notamment l'École du patrimoine travaille beaucoup sur l'introduction du patrimoine dans les programmes scolaires. Et nous, là, en Afrique, nous avons déjà réussi à mettre ça dans au moins 3 ou 4 pays. On continue, on a créé un réseau africain pour travailler sur cela, pour que, à la base, on enseigne le patrimoine, on dise qu'est-ce que c'est que le patrimoine. Et c'est maintenant à ces gens qui deviendront adultes de juger ce que c'est que le patrimoine, parce que ça ne parle pas du néant. Et très souvent, quelqu'un qui n'a jamais été dans un musée, qui n'a jamais été en contact ou dont on n'a jamais parlé dans les cultures scolaires, du jour au lendemain, il ne peut pas, prendre ça en considération. Donc, c'est très important, ça. Maintenant, l'autre problème, c'est, vous avez parlé de musées communautaires, les musées, les banques culturelles, mais aussi, vous avez parlé des ex-rebelles ou des futurs rebelles.
Futurs rebelles.
Donc, voilà. Maintenant, je pense que nous sommes en train de mettre l'accent aussi sur le problème des musées militaires. Parce qu'aujourd'hui, quel rôle jouent les musées militaires dans la protection du patrimoine en temps de guerre ou en post-conflit, en situation de post-conflit.
Les musées militaires.
Les musées militaires. Ou disons, on dit musée militaire, on peut trouver le nom. Mais aujourd'hui, les guerres ont changé. On n'est plus dans la guerre où on va se battre. Les armées ont un défi, ont une fonction dans la nation. Donc les armées doivent être plutôt jouées à l'éducation citoyenne, mais aussi travailler sur la protection. Parce que je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Oui.
Quand le pièce a eu lieu au musée des civilisations, tout le monde devait s'y attendre, on le savait. Mais pourquoi aucune disposition n'a été prise? Parce que les armées, effectivement, n'ont jamais eu ça en tête. Et même souvent, ils ont détruit certains objets ou certains monuments en disant que c'était des objets fétiches pour le président sortant.
Mais là, c'est encore la responsabilisation et la sensibilisation des politiques, puisque finalement, qu'il y ait rébellion ou autre, il y a toujours des politiques qui sont pas très loin là derrière.
Hein. Oui, mais voilà, je pense responsables, qu'il faut, y travailler. Je pense que c'est une piste de réflexion que nous avons lancée et je pense que ça va beaucoup aider et à briser ce tabou et cette barrière entre les populations et l'armée et rendre l'armée beaucoup plus disons citoyenne et travailler beaucoup plus dans la protection des objets quand il y a des conflits, parce qu'effectivement les conflits c'est parce qu'il manque aujourd'hui en Afrique malheureusement, mais c'est qu'il faudrait prévenir, il faudrait travailler dans ce sens-là. Voilà, donc c'est nécessaire.
Diminuer déjà le nombre de complices et le nombre d'intermédiaires, puisque c'est aussi ça, quand il y a des tableaux qui montrent un peu les schémas des différentes intermédiaires, dont les archéologues parfois, les marchands, etc. Il faut diminuer un peu ce nombre d'intermédiaires pour éviter les risques peut-être de pillage. On a parlé de quelques solutions locales, les banques, ça a été évoqué plusieurs fois déjà, banque culturelle du Mali. Anne Maillard, vous connaissez un peu ce sujet, j'imagine les autres aussi, mais dites-nous un peu de quoi il s'agit.
Oui, en fait, c'est une des initiatives locales qui a émergé, je dirais, depuis une bonne dizaine d'années au Mali. L'idée, c'est de revenir peut-être là aux populations et toujours en restant dans ce schéma sensibilisation des populations. Donc, l'idée ici, c'est que les populations en zone rurale, leur richesse, c'est leur patrimoine culturel, leur bien culturel. Mais en revanche, on le sait, dans la plupart des pays subsahariens, un niveau de vie très faible. Donc l'idée, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette richesse culturelle en termes économiques, de façon à ce que les populations soient motivées à préserver ce patrimoine au lieu de s'en séparer pour quelques francs qui sont vite évaporés. Alors, c'est sur cette base, sur ce concept que se sont développées les banques culturelles au Mali. Et l'idée, c'est que ce soit vraiment les communautés locales qui gèrent ce patrimoine et donc qui apportent dans un musée villageois leur objet et reçoivent en contrepartie un microcrédit. Elles l'utilisent pour des activités génératrices de revenus. Elles remboursent et elles récupèrent leur objet. Et ainsi, elles peuvent recommencer autant de fois qu'elles le souhaitent. Et donc,
c'est une sorte de gage, un peu.
alors c'est plus que ça, dans le sens où on attribue la valeur du prêt sur l'information qui est donnée avec l'objet.
Et non pas la valeur
et
de l'objet.
Et non sur la valeur marchande de l'objet.
Donc il faut faire l'effort de raconter quoi c'est l'objet, comment il est utilisé.
Donc c'est un double but aussi de documenter des biens culturels dont on n'a pas du tout connaissance et en même temps apporter des fonds et permettre aux communautés de se développer sans se séparer de son patrimoine. Et
ça marche bien les uns les autres. Kléna Sanogo, vous en avez écho dans votre propre pays.
C'est pas encore très vulgarisé. Il y a eu comme 3 exemples de banques culturelles. Je sais pas comment ça marche, mais ça a intéressé quand même les villages où ça a été.
Disons que c'est déjà inventé une solution spécifique pour.
C'est tout comme les missions culturelles. Les missions, on les a appelées missions parce qu'on pensait que ça durait dans le temps. Au départ, quand on parlait des missions culturelles, on pensait qu'au bout de 5 ans, on allait pouvoir sensibiliser les populations pour qu'elles prennent en charge leur patrimoine, la gestion de leur patrimoine culturel. Mais jusqu'ici, ça continue. On en crée d'autres. Ça veut dire que l'expérience n'a pas tout à fait. Mais on ne se décourage pas. C'est la même chose pour les banques culturelles. Je pense que les banques culturelles ont plus de chances de succès que les missions culturelles. Parce qu'effectivement, on donne des moyens aux populations qui viennent déposer leurs objets. Et à la longue, si ces populations ne sont plus vraiment dans la nécessité, elles pourront même garder leurs objets en permanence dans ces banques qui deviendront des musées locaux qui sont totalement gérés par les populations à la base.
Ça existe dans d'autres pays, cet exemple-là
Oui, je vais donner justement aussi, je pense que les banques culturelles, ça mérite vraiment d'être cité parce que c'est un exemple original.
Falopaba Keita, oui.
Qui a été développé bien sûr au Mali, mais qui a intéressé la Banque mondiale, puisque en fait l'initiative était partie de là, donc voir pour comment on peut l'appliquer en Inde. Mais déjà, au niveau de l'École du patrimoine africain, nous avons, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Musée au service du développement, de multiplier cet exemple de la Banque culturelle du Mali. Et aujourd'hui, au Togo, et au Bénin il y a donc des exemples de banques culturelles qui se développent sur l'exemple du Mali, et dans le cadre de ce programme-là. Et parce qu'effectivement, comme on l'a dit, les banques culturelles, non seulement c'est géré par les populations, et ça crée des nouveaux rapports entre les populations aussi, parce qu'au-delà de la protection de l'objet, c'est donc tout un système d'économie qui se met en place, comme l'a déjà expliqué Anne Meyer, et qui permet donc de résoudre les problèmes, puisque effectivement, la plupart des problèmes sont posés, on dit c'est le problème économique, les gens vendent les objets. Alors, ils ne vendent pas les objets, mais en même temps, les problèmes sont résolus. Mais en même temps, les objets qui sont conservés sont partagés d'abord au niveau de la ville ou du village, mais également, il y a des relations entre d'autres villages qui viennent s'en inspirer pour pouvoir donc, disons, mettre en place des systèmes et non seulement de gestion, mais aussi de conservation de ces objets. Donc,
il n'y a pas danger, des fois, d'inégalité entre qui détient ces objets et ceux qui n'en détiennent pas? Est-ce que c'est toujours les mêmes qui les détiennent? J'en sais rien. Des responsables, des chefs, enfin...
Je crois que c'est plutôt au niveau de la communauté.
Tout le monde en a.
C'est-à-dire que les objets, qui a son objet, dépose et prend l'objet quand il veut. Mais l'objet, la plupart du temps, derrière ces objets reste longtemps parce qu'on renouvelle le crédit, disons le prêt, et les objets continuent à rester. Donc du coup, pour le profit d'un plus grand nombre donc, de personnes.
Mmh. Eric Wiscom.
Oui, puis il y a certaines modalités. Par exemple, dans une des banques culturelles au Mali, qui est celle de Dimbal, il y a plusieurs catégories. Il y a des objets qui sont liés directement à un musée, donc qui sont présentés au public, quel qu'il soit, local, extérieur, éventuellement touriste. Et puis il y a des objets où, lorsque le propriétaire désire que la sacralité de l'objet soit maintenue, à ce moment-là, l'objet sera détenu dans une armoire fermée à clé, dans une pièce protégée. Donc, si l'on veut, le vœu de sacralité ou de le respect de la confidentialité de l'objet peut être respecté ou il peut être utilisé effectivement pour drainer des visiteurs. Je voulais aussi dire que les banques culturelles, jusqu'à présent, c'est important à souligner, ne concernaient jamais le patrimoine archéologique. Au départ, nous l'avons exclu de toutes les banques culturelles parce que nous ne voulions pas que les gens aillent déterrer, donc chercher ou faire des fouilles illégales clandestines pour approvisionner un musée et obtenir ainsi des prêts de microcrédit. Donc en fait, c'est vraiment, les banques culturelles concernent vraiment la mémoire vive des gens. Et je voulais aussi rajouter une chose, c'est qu'elles concernaient non seulement les objets, mais aussi ont commencé à faire des savoir-faire. Donc, quelqu'un peut venir trouver une banque culturelle en disant « Je peux faire du savon traditionnel selon une recette ancestrale et je reçois un prêt en contrepartie d'une activité que je m'engage à faire une fois par mois ou une fois par semaine, refaire du savon, refaire de la bière de mille, refaire de l'huile de karité et disons, perpétuer ma recette. »
Donc ça, ça existe aussi. Est-ce que je peux venir raconter une histoire et recevoir un microcrédit?
Je n'ai pas d'exemple, mais en tout cas, des savoir-faire, oui.
Je ne sais pas, non.
Ça peut être envisagé, pourquoi pas. Mais c'est vrai que les objets sont très divers. Je dirais qu'il y a des objets personnels. Par exemple, une femme peut amener un bijou qu'elle a ou un menu objet lié à vraiment très personnel. Mm-hmm. Et puis d'autres objets, au contraire, appartiennent à une collectivité, à un groupe, à une famille ou même une famille élargie. Donc, va concerner un ensemble de personnes. Donc, il y a différents types d'objets et je dirais... Voilà, c'est pas uniquement une histoire de personnes à musée, mais ça concerne toute la collectivité. Et là aussi, pour continuer sur cet aspect de sensibilisation et d'explication, on en vient à ces questions. C'est évident qu'en travaillant en zone rurale avec ces banques culturelles, on a affaire à des gens qui sont essentiellement non scolarisés. Donc, il faut travailler justement avec d'autres canaux d'information. Et là, il y a les troupes de théâtre villageoises qui jouent un rôle clé dans l'explication des nouveaux concepts, tels que ce concept de banque culturelle ou de bien culturel menacé, de patrimoine, de tout ça.
J'imagine ce mot de patrimoine, il n'est pas sous le sens non plus pour tout le monde.
Non, il faut le faire passer par des exemples, des scénettes qui mettent en jeu les objets, les situations. Mmh.
Oui, c'est aussi un autre élément du débat, parce que aujourd'hui le patrimoine, quand on en parle dans le terme en français, aujourd'hui comment appelle-t-on le patrimoine en bambara, en peul, à Bozo, voilà. Donc c'est
quel sens,
pas seulement, pas seulement comment appeler, mais quel sens donne-t-on au patrimoine?
Quel équivalent?
Voilà, quel équivalent et quel sens donne-t-on à cela? Je pense que c'est aussi un des.
Vous avez un exemple de mots qui se rapprochent, mais qui.
Disons au Mali, il y a des tentatives, mais il y a aujourd'hui ça, c'est que c'est une chose qui intéresse au plus haut point l'Union africaine, puisque à la dernière réunion des ministres de la culture à Abuja, il y a eu ce débat. Hein, bon, l'Institut de pour la promotion des langues africaines y travaille et pour faire en sorte que on puisse traduire, quand on peut dire les intraduisibles, mais seulement pour les traduire vraiment dans les langues nationales, pour que dans les problèmes de sensibilisation, on parle aux gens dans leur langue et dans un sens qui leur dit quelque chose. Parce que souvent aussi, peut-être que c'est pourquoi quand on dit patrimoine, les gens ils réagissent pas, parce que les notions que nous, ou le contenu que nous mettons n'est pas forcément, disons, là, ne leur dit pas quelque chose. Donc je pense que c'est un élément, un aspect pour intéressant. Et M. Sanogo, en tant qu'institut des sciences humaines du Mali, je pense que devrait, certainement un aspect devrait être développé dans ce sens-là.
M. Sanogo, oui.
Oui, en fait, le débat est en cours au Mali, ouais. Tu le sais, il y a les juristes aussi qui... Nous avons tenté, dans toutes les langues écrites du Mali, de traduire. Et j'avoue qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés
en phase.
Avoir... Oui, parce que le Bambara, quand je prends le Bambara qui est très largement parlé au Mali, on parle de fatien. Mais ça ne traduit pas la notion de patrimoine.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire l'héritage, ce qu'on tient de son père.
Ah, voilà. C'est intéressant.
C'est très restrictif. Et là, ça ne traduit pas la notion de patrimoine. Comment traduire ça au niveau de la communauté, de la collectivité? C'est... En réalité, les objets dont on parle, bon, vous avez parlé de création de nouvelles inégalités, ça peut arriver dans le cas des banques culturelles, mais l'essentiel, c'est vraiment une propriété collective de ces objets, si on exclut les bijoux,
Mais ça ne tient pas sous le sens non plus.
Voilà, et comment traduire ça?
De dire que
c'est un bien collectif. Et quand vous voulez traduire ça... Le patrimoine culturel, vous n'avez pas de terme.
À nouveau, difficulté pour les juristes. C'est sans degré. Hein. Sur ce point-là particulier.
Les juristes, les linguistes, au fait. Tout le monde
est vraiment.
C'est un débat ouvert.
Pour Mali, c'est très ouvert et on travaille sur ça. Et parce que pour faire passer vraiment des notions aux populations, il faut le leur dire dans leur langue. Quoi.
Oui, et là, on va plus au-delà la traduction des lois. Des textes en langue nationale.
Ah oui, aussi. Et là, chaque terme.
Oui. Tiens, on revient sur ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'on a un droit du patrimoine qui s'est construit à partir de concepts occidentaux, coloniaux, et qui se construit encore aujourd'hui, dans les années 2000, par mimétisme. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une captation des notions et des concepts patrimoniaux occidentaux qui, littéralement, vont imprégner encore les lois africaines. Et donc, je dirais que dans la formulation, justement, de ces notions de patrimoine dans les langues locales, je dirais que là, on a les ferments pour élaborer de nouvelles lois, de nouvelles normes, qu'on appelle lois, quel que soit l'intitulé qu'on leur donnera, donc de nouvelles normes qui puissent produire une effectivité sur le terrain, puisque on aura une appropriation et une identification du groupe à des notions que ce groupe maîtrise parfaitement. Donc ça, c'est une donnée essentielle. Et puis, le terme de patrimoine est une notion très générique. Je dirais que qu'est-ce qu'on met dedans? Ça s'arrête où? Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça s'arrête? Et il y a des enjeux patrimoniaux aussi sur le continent africain que l'on va aborder lors de ce colloque et qui, aujourd'hui, sont en déficit, comme le patrimoine subaquatique. Les côtes, il y a quand même au large des côtes africaines, on peut l'imaginer et on le sait, sans même avoir à l'imaginer, un nombre de navires qui ont échoué, qui ont fait naufrage tout au long des siècles derniers. Et donc là, il y a un vrai pillage qui est en cours, parce que là, il y a des questions économiques très fortes, avec des compagnies privées qui arment...
Ça demande beaucoup de moyens aussi. Hein.
Oui, mais vu les cargaisons qui sont extraites de ces galions, l'opération est très rentable. Et aujourd'hui, on observe une archéologie sous-marine privée qui se développe avec des navires armés au sens maritime du terme, pour sonder et pour explorer, exploiter, piller ces épaves.
Donc je rappelle, on parle de mémoire africaine en péril, en marge ou avant, prélude ce colloque du musée d'art et d'histoire à Genève. Ça commence demain et jusqu'à vendredi. Eric Wiscombe, vous voulez rajouter quelque chose?
C'était peut-être une illustration dans mes recherches et mes enquêtes sur les statues de pouvoir, les statuettes de pouvoir, ce qu'on appelle vulgairement les fétiches. Je voulais insister sur cette notion de patrimoine. Chaque statuette a un patrimoine en elle-même qui est un code, c'est-à-dire une phrase sacrée, secrète, avec laquelle on s'adresse à cette statuette, un contexte, on ne s'adresse pas à un fétiche, entre guillemets, à n'importe quelle circonstance, seulement dans certaines circonstances, seulement certaines personnes, seulement avec certains animaux que l'on va sacrifier dans telle et telle période de la semaine ou telle période de l'année, avec des jours tabous, etc. Donc, vous avez là une statuette qui peut être très ancienne, 2 siècles, 3 siècles, qui est magnifique, et qui pour nous tous est patrimoine, ici autour de la table, en tant qu'occidentaux, entre guillemets. Hein. Mais pour les villageois, c'est le contenu qui est patrimoine. Donc autrement dit, lorsque pour des raisons techniques, la pièce était détruite par des intempéries, des termites ou autres, on doit renouveler la pièce, on va faire transférer l'ensemble du contenu de cette pièce, la phrase sacrée et tout. Et une fois que le transfert est effectué, l'ancienne pièce qui ici peut valoir des centaines de milliers de francs, vaut là-bas plus absolument plus rien. Et c'est là qu'on peut avoir aussi un rôle, c'est essayer de convaincre les gens que l'ancienne pièce désacralisée,
l'enveloppe,
la forme, vaut aussi, appartient aussi au patrimoine et pas seulement le contenu. Et là, c'est pour ça que la notion de patrimoine est complexe.
Et là, la question aussi rentre en jeu de conservation, de préservation, justement. Là, vous abordez bien ce thème. Conserver les objets, donc aussi les musées. Là, il y a tout un travail aussi, j'imagine, qui est encore à faire. Vous parlez de musée communautaire. J'imagine que la conservation dans un musée communautaire n'est pas la même que dans un musée national, avec tout l'équipement X et Y. Donc là, difficulté quoi à sensibiliser, pas seulement les gens que vous formez, mais aussi les autorités sur les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour préserver conserver ce patrimoine.
Oui, en effet, je pense que cette question devrait s'adresser à moi directement en tant que directeur de l'École du patrimoine africain. C'est vrai que la conservation aujourd'hui, la notion de musée elle-même se pose quel musée pour l'Afrique ? Parce que c'est depuis, bien sûr, d'actualité, depuis 90, quand l'ICOM a lancé le thème avec le président Alpha Conaré, qui posait la question que si les musées sont déficitaires en Afrique, c'est parce que ces musées ne répondent pas forcément à un besoin ou à une réalité. Donc il faudrait créer des musées, il faudrait faire en sorte que les musées soient plus adaptés.
Il faut les réinventer aussi.
Réinvention, effectivement, l'adapter aux besoins. Mais au-delà de cela, je pense que l'aspect conservation, disons, de ces biens, puisque un bien qui rentre dans un musée ne devrait pas se détériorer. Et c'est ce qui se passe très souvent. Et les musées deviennent pratiquement des lieux où les objets qui rentrent massivement se détériorent. Alors, problème, il y a plusieurs raisons. Bien sûr, d'abord la formation qui est au premier plan, sur que le personnel n'est pas réellement tout à fait formé, même s'il y a eu des efforts qui ont été déployés ces dernières années pour former le personnel, mais il faudrait continuer, puisqu'il y a aussi le départ à la retraite, il n'y a pas un renouvellement du personnel. Mais l'autre aspect, c'est tout l'environnement juridique et administratif donc de ces musées. Parce qu'on crée des musées sans pour autant prendre toutes les dispositions nécessaires pour les doter des moyens nécessaires et de textes nécessaires pour leur fonctionnement. Alors, je prends un exemple, des musées sont créés sans budget. Alors, on a un musée, alors que quand le budget est nécessaire pour faire des travaux de conservation. Pour
on pose juste des objets comme alors, ça.
Il y a la volonté, on le fait. Mais ceux qui travaillent dans ce musée n'ont pas de moyens réellement pour pouvoir faire le travail. Donc, ce qui est très handicapant. Et en plus de cela, donc, tout ce qui est l'environnement administratif, c'est-à-dire la description de tâches de ces personnes-là, et ce que ces personnes doivent faire, donc ça aussi c'est à améliorer, même s'il y a eu des améliorations dans ces dernières années. Donc c'est tout cela qu'il faudrait faire pour que non seulement les politiques mais aussi les professionnels puissent jouer pleinement leur rôle. Et l'autre aspect, c'est que les musées n'attirent pas une grande foule aujourd'hui, parce que vous avez des musées qui ne sont pas visités. Alors, pourquoi est-ce que cela aussi joue la démotivation, du fait que les gens ne mettent pas assez.
C'est une question d'éducation, alors,
du coup. C'est aussi dans ce moment-là, mais ça, il faut le dire quand on dit cela, parce que bon, il y a des chiffres, effectivement, qui le disent quand on prend la visite des musées. Mais ce n'est pas tous les musées, certainement, mais dans beaucoup de musées, il y a certains musées où il y a beaucoup de musées aujourd'hui qui sont là et qui ne sont pas visités parce qu'il n'y a pas une mise à valeur réelle.
Ça, c'est très inégal selon les.
C'est très inégal suivant les lieux, mais si on met en valeur les collections et que ces collections touchent des domaines qui intéressent les populations viennent. Donc ce travail n'est pas fait, qui à la fois relève de la formation, mais aussi de la mission réelle de ces musées-là. Donc il y a tout un ensemble de problèmes qui n'est pas vraiment. C'est pas un seul problème, c'est tout un environnement qui est là qu'il faudrait améliorer, même si déjà il y a eu des pas. Mais il faut pousser davantage pour faire que les musées puissent être beaucoup plus attrayants, que les musées travaillent beaucoup plus sur des préoccupations d'aujourd'hui, qu'elle ne soit pas forcément liée au passé.
Qu'au passé trop lointain.
Voilà, que c'est ça, donc, parce que le musée, c'est aujourd'hui, mais c'est le futur aussi.
Quel type de musée, Eric Wiscombe?
Je soutiens tout à fait ce que dit Baba Keita, je vais compléter. C'est aussi parce qu'il faut persuader les gens de musée que leur mission ne s'arrête pas au musée et à la conservation, mais aussi à une programmation politique qui veut que l'on invite des écoles voir des musées, que l'on invite des maîtres d'école à en parler aux élèves. Et en ce moment-là, qu'on met en place une véritable visite des musées. Le Musée national du Mali, qui est extrêmement visité, des fois on n'approche pas des vitrines tellement il y a du monde, c'est aussi parce que la direction du musée a mis en place des visites avec les écoles, les collèges, etc. Donc là, il faut convaincre les gens et éduquer les gens de musée que ça ne s'arrête pas au rôle du musée, mais aussi à toute mise en place.
Monsieur Sanogo intervient, je vais juste donner un exemple parce qu'il a parlé du musée de Bamako. Effectivement, oui. Moi-même, j'ai travaillé au Musée national du Mali et j'étais parmi les, en tout cas, la nouvelle formule de musée aujourd'hui, j'étais parmi les premières personnes à mettre en place ce musée. Effectivement, il y a eu une évolution très forte au niveau du Musée national de Bamako qui montre qu'on peut faire des choses, effectivement, au niveau des musées. Si, comme Eric le dit, si on fait en sorte qu'on concerne les populations, on met en place des programmes, donc on intéresse, et même les politiques, parce qu'en fait, c'est ça aussi que les professionnels doivent faire pour que chacun y trouve son compte. Donc je pense que cela doit être fait. Mais si on prend aujourd'hui sur le continent, il y a des musées, quelques musées comme ça, mais la majorité des musées sont dans l'autre, doivent encore faire des efforts pour arriver.
Et juste déposer les objets, j'en ai vu dans certains pays où on pose des objets, puis voilà, bon, même si c'est du papier, bah, il est comme ça, des vieux manuscrits qui petit à petit s'effritent. Cléna Sanogo, puisque vous étiez interpellé.
Oui, on revient vraiment au problème soulevé par Vincent dès le départ, c'est-à-dire que tout ça, il faut créer pour l'Afrique. Le musée, c'est pas une tradition africaine. Il faut trouver. Quand les objets étaient protégés dans le temps, on l'a dit, vous l'avez dit, c'était des lois, c'était des règles non écrites, avec des sanctions sans appel d'ailleurs, qui étaient souvent la sanction suprême. Mais ça, c'était une organisation de la société qui permettait ça. C'était la terreur. On savait que si on transgressait telle ou telle règle, je ne sais pas comment ils faisaient, mais il y avait quand même des sanctions. Et c'était sans appel. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Le musée européen n'a pas toujours existé, hein. Il a été créé. C'est-à-dire que c'est toutes ces études qu'il faut mener pour voir comment on est arrivé à ancrer la notion de musée en Europe, pour voir si nous pouvons avoir une même démarche vis-à-vis des Africains, de l'Afrique.
Passer de la collection au musée aussi, parfois.
Voilà, passer de la... Non, tout à fait. C'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire. Je suis tout à fait d'accord avec son approche. Et quand on dit qu'il faut qu'on travaille à créer toutes ces notions-là pour l'Afrique.
Elle Maillot.
Voilà, parce que j'aimerais dire aussi à ce propos, c'est qu'une des pistes qui se dessine aujourd'hui, c'est aussi de créer des partenariats entre des musées du Nord et des musées du Sud et créer des échanges de connaissances, des échanges aussi d'objets ou d'expositions. Et là, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans le domaine en ce moment entre des musées du Nord, de Suisse par exemple, hein, on en parlera lors de la conférence, et des musées africains. Et je pense que là, tout le monde a grandement à y gagner, d'essayer de créer des partenariats et des initiatives communes.
Initiatives communes qu'il faut réguler encore une fois aussi. Dans ces échanges, il faut avoir les mêmes règles, Vincent Négri.
Oui, mais ces règles font l'unanimité maintenant au niveau international. Alors, l'unanimité qui est pas très ancienne, hein, qui a quelques décennies, qui on va dire même trois décennies si nous sommes optimistes.
Et les échanges vont, je précise, devraient aller dans les deux sens aussi, ce qui n'est pas toujours le cas.
Non, ce qui n'est pas toujours le cas.
Donc pas échange.
Donc pas échange. Mais on a quelques exemples justement d'échanges bilatéraux qui en fait se sont transformés en échange unilatéral. On a un très bel exemple dans un musée parisien où quelques pièces ont été prêtées à l'époque par le président Senghor en 67. Et pour 3 ans, elles sont toujours restées dans ce musée parisien. Donc on voit, vous pouvez encore aller les voir aujourd'hui en 2011, hein, y a pas de difficulté. Donc on voit effectivement que les échanges sont parfois des notions un petit peu extensives, on va dire, dans la durée, d'une part. Donc, mais ça, on est sur la question des partenariats, je dirais que, et aussi la confiance mutuelle. C'est-à-dire que on est passé d'une époque, on va dire, il y a encore quelques décennies, à des musées prédateurs, des musées occidentaux qui globalement se souciaient assez peu de déontologie. Je dirais qu'il s'agissait de constituer des collections et que tous les moyens étaient bons, hein, si je force un peu le trait, mais pas tant que ça, justement. Et puis, à partir des années 80, les choses ont peu évolué. L'UNESCO a adopté une convention en 70 sur la prévention du trafic illicite, le retour. Donc, on voit au niveau international, se sont mis en place, on va dire, des principes, des référents communs. Donc, ça, c'est une base importante. Et puis, d'un point de vue déontologique, le Conseil international des musées a adopté un code de déontologie en 1986 qui a été révisé régulièrement jusqu'en 2004. Et aujourd'hui, on a vraiment un ensemble, un corpus, on va dire, de règles, soit de nature conventionnelle et au niveau international, soit de nature déontologique, qui permet justement de nouer un vrai dialogue entre des États africains, des États du Sud, des États du Nord. Ils ont les bases du dialogue, en quelque sorte, qui sont posées.
Donc, mémoire africaine en péril, ça fait un peu peur, comme ça, au débat. Mais finalement, je vous sens quand même relativement optimiste sur les voies à venir. On peut faire juste un tour de table. La priorité pour chacun, ce serait quoi, malgré cet optimisme? On commence Fallo Baba Keïta pour finir cette émission.
Merci bien.
En deux mots, chacun.
En deux mots, oui. Non, mais il faut être optimiste. C'est la loi pour pouvoir avancer. Sinon, on va complètement rendre le tablier. Donc, il faut avancer. Et il y a des pistes, comme chacun le dit ici. Il y a des possibilités. Il y a des, disons, des alternatives. Il y a des opportunités qu'il faut absolument multiplier.
Et votre priorité à vous ?
Moi, ma priorité, c'est surtout l'éducation au patrimoine aujourd'hui.
Évidemment.
Faire en sorte que les jeunes.
Via l'école du patrimoine africain.
Via l'école du patrimoine africain, travailler sur les jeunes générations. Je ne dirais pas que la génération d'aujourd'hui ne peut rien faire, mais il faut travailler sur le futur. En même temps, continuer à renforcer la capacité professionnelle de ceux qui travaillent.
L'éducation.
Voilà.
Anne Maillot.
Je dirais la lutte continue. Il faut rassembler les gens des différentes disciplines et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette conférence.
Des multiplications aussi de l'intérêt des disciplines différentes aussi.
Échanger, discuter et faire avancer les choses.
Kléna Senogo.
Oui, deux aspects. On n'a pas parlé de la restitution parce que très, très souvent on évoque le manque de conditions, de bonnes conditions de préservation des objets en Afrique pour ne pas les restituer. Ça existe, on l'a dit tout à l'heure.
Aujourd'hui,
donc, les partenariats, vraiment, on devrait aller dans le sens du développement des partenariats. Ma deuxième priorité, je suis archéologue, hein, parce que les objets archéologiques sont très pillés. Il faudrait effectivement le développement aussi des recherches archéologiques, parce que c'est une course entre les archéologues et les pilleurs, dans la plupart des cas, quoi. Donc, il faut développer les recherches. Et là encore, c'est le partenariat.
Et aujourd'hui, restitution pour rebondir, hein, c'est pas restitution de tout, mais restitution choisie, ciblée, oui. Avec aussi une évolution peut-être dans la conscience de ce qui est important et de ce qui est peut-être un peu moins. Rick Wiscom,
Je suis optimiste parce qu'il y a une évolution dans le domaine de l'éthique, la déontologie, parmi les chercheurs. L'ensemble des chercheurs travaillent en Afrique et je pense qu'une des priorités, ce serait effectivement de, par exemple, établir un code de déontologie des archéologues, des ethnologues travaillant en Afrique.
Vincent Négri. Votre priorité.
Ma priorité, c'est
le colloque de demain.
C'est le colloque de demain. ça me semble assez évident. Et puis montrer que l'avenir est plus radieux que ce que l'on imagine très souvent sur ces questions-là.
Bon, bah c'est bien, ça finit sur une note positive. Mémoire africaine en péril, donc c'est un colloque organisé par le Musée d'art et d'histoire de Genève, hein, avec l'Université de Genève et le CNRS. Demain et vendredi, ça se passe au musée, j'imagine, forcément. Oui. Et ça commence à 9h jusqu'à 18h, les deux jours à peu près. Donc problématique, réflexion générale, patrimoine en péril, déontologie pillage, aspect juridique, gestion locale du patrimoine, un peu toutes les questions qu'on a évoquées autour de cette table. Merci à vous tous, Fallou Baba Keïta, Cléna Sanogo, Anne Mayer, Eric Wiscom et Vincent Negri. Voilà, on va se quitter sur cette note plutôt enjouée. Demain, on parlera d'art et science. Comment aussi, là, la science peut permettre de restaurer de manière très technique, technologique, l'art. Avec Cécile Guérin, documentaire. Babylone, c'est une production de Nicole Duparc et David Collin. On se retrouve demain à 9h. Vous écoutez Babylone, espace 2. Il est temps de vous informer, il est 10h.